Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, un podcast coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com et plein de plateformes de podcast, Apple, Samsung, Google, etc. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et rock. Après l'émission spéciale au Hellfest Corner de la semaine dernière, dont vous pouvez retrouver la version vidéo filmée sur la chaîne YouTube de The Pit Edition, je vais recevoir aujourd'hui le groupe Terrafosa, originaire de région parisienne. Plutôt dans un registre métal progressif, disons, ils ont sorti leur deuxième album Inferno le 2 février dernier, dans lequel ils nous font voyager à travers les 9 cercles de l'enfer de la Divine Comédie de Dante. L'interview promet d'être passionnante. Après l'interview, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de chronique cette semaine, mais nous allons parler du documentaire Dream Deceivers disponible sur The Pit et qui raconte le procès inédit entre Judas Priest et la famille d'un jeune homme américain. Je vous donne plus de détails après l'interview. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Violence, extrait du deuxième album de Terrafosa, Inferno, sorti le 2 février dernier, et on retrouve le groupe juste après pour l'interview. Interview Violence de Terrafosa tout de suite. We'll be right back. vient d'écouter le morceau Violence de Terrafosa et tout le groupe au complet vient de me rejoindre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui. Voilà, il y a le batteur qui n'a pas parlé, mais il va avoir le micro tout à l'heure. Alors, avant d'aborder votre deuxième album, Inferno, sorti le 2 février dernier, on va présenter rapidement le groupe. Donc, Terrafosa, formé en 2007, le line-up n'a pas changé depuis. On a donc Martin à la batterie, Mathieu à la basse, Vincent au chant et à la guitare. Vous étiez très jeune quand vous avez formé ce groupe ?
Ouais, parce que alors moi j'avais 17 ans et Mathieu et Martin, ils avaient 13 ans.
Amis ouais. D'enfance donc.
D'ailleurs, Mathieu, c'est mon frère.
Oui, enfin, du coup, frère et ami d'enfance.
Et ami d'enfance, voilà. Donc, ouais, on a commencé super jeune ensemble et puis, bah, on est encore ensemble aujourd'hui.
Donc, vous avez sorti une démo en 2012, un EP en 2018, votre premier album Transcendence en 2020. Alors, je voudrais un peu m'attarder sur cet album avant de parler du deuxième parce que j'ai cru comprendre que le concept de transcendance humaine était important pour vous. C'est aussi un concept lié à votre deuxième album. Voilà, c'est quoi la transcendance pour vous ? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important ?
En gros, pour nous, la transcendance, c'est accéder à un état supérieur, c'est l'amélioration de soi au niveau moral, spirituel, on va dire, au niveau intellectuel et au niveau physique. C'est dépasser l'humain que l'on est, dépasser les défauts, corriger les défauts, le mauvais caractère, les imperfections que l'on peut avoir.
Et l'homme en a beaucoup en plus. Hein. Donc c'est quand même très philosophique et c'est un peu ça qui vous guide dans votre vision du groupe. C'est un peu ce concept-là philosophique au sens large, effectivement. Et donc après Transcendence, donc en 2020, votre deuxième album sort Inferno en février 2024 et il prend pour inspiration principale le premier cantique de la Divine Comédie du poète italien Dante, écrit au début du XIVe siècle, à savoir l'enfer. Alors moi je suis pas hyper calé, je vous avoue, sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez me résumer de quoi parle la Divine Comédie et surtout ce que vous avez pris pour vous inspirer pour créer cet album et surtout pourquoi ?
Alors en gros, la Divine Comédie de Dante, c'est un voyage initiatique à travers, disons, le monde non sensible, le monde métaphysique. Il va d'abord passer par les enfers, ensuite il va passer par le purgatoire, et ensuite il ira au paradis.
Ça, c'est les trois cantiques, voilà, j'allais le dire effectivement, les trois cantiques, l'inferno, l'enfer, purgatorio, le purgatoire, et paradiso, le paradis.
Exactement. Et en fait, c'est un voyage spirituel. Là, c'est écrit au XIVe siècle, donc on est dans un monde qui est catholique. Dante est catholique. Il vit assez proche de Rome, à Florence. Il est dans une époque où il y a où c'est marqué par beaucoup de conflits, on va dire, avec la papauté. Et on sent déjà il y a tout un aspect politique dans l'œuvre de Dante qui n'est pas abordé dans l'album évidemment, mais Dante a été très marqué par tout ça. Il s'est servi de son œuvre pour, on va dire, incriminer certaines personnes de son temps. Mais nous, on aborde que le voyage initiatique, que cette partie justement de la transcendance, où d'abord il va aborder les péchés, les actes, ensuite il va aborder les dispositions de l'homme à commettre ses actes, à certains vices, donc c'est les péchés capitaux dans le purgatoire, et ensuite il abordera les vertus, qui est la finalité de la transcendance, qui est la fin, plutôt les moyens qui nous permettent d'arriver à notre fin, qui est le bonheur. Et donc en gros, voilà, c'est l'œuvre de Dante.
Ok, et du coup, vous nous guidez à travers les 9 cercles de l'enfer qui sont décrits dans la Divine Comédie. Alors, on va pas résumer les 9 cercles de l'enfer, j'invite les gens à regarder du coup sur internet, ce sera quand même plus simple. En tout cas, vous avez personnifié chaque cercle sur la pochette. Alors par contre, du coup, il y a 11 personnages sur la pochette, c'est qui le dernier ? Parce qu'il y a la victime humaine, il y a les 9 cercles, et c'est qui le dernier alors ?
En gros, on a Vestibule. On a décidé de représenter Vestibule, qui n'est pas considéré comme un cercle, c'est l'entrée des enfers, c'est l'anté-enfer.
Ok. Je suis pas hyper calé, donc voilà, j'irai regarder ce que c'est effectivement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album concept, votre album Inferno ?
En fait, le truc, c'est nous on l'a pas pensé comme ça, comme un concept album. Après, c'est vrai que le thème fait que il y a un côté concept album qui est inévitable, on peut pas le nier, même si on l'a pas du tout visualisé comme ça à la base. Mais bon, c'est pas gênant de l'appeler comme ça. Hein.
Ok. Et donc, la Divine Comédie de Dante, je crois que c'est un texte sur lequel vous vouliez travailler depuis un moment, notamment toi, Vincent, mais aussi Mathieu, du coup. Ouais. C'est comme ça. Comment ça s'est passé un petit peu votre réflexion ? Parce que je crois que c'est bien avant, du coup, la sortie même de votre premier album, je crois.
Ouais, c'est ça. En fait, avant même de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail, ce qu'a fait surtout Mathieu. Parce qu'en fait, pour la information, moi j'ai fait la musique, Mathieu a fait les paroles.
Absolument, on va en parler tout à l'heure.
Moi, je suis allé moins en profondeur que Mathieu dans le domaine, on va dire. mais rien que la thématique était déjà pour moi très inspirante. Les 9 cercles de l'enfer, c'était quelque chose qui je trouvais très inspirant, et le représenter en musique, ça me voilà, c'était un truc que j'avais vraiment envie de faire.
Il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, et puis ça colle bien au métal. Il y a plein de groupes de métal qui s'en sont inspirés, notamment Sepultura qui a aussi fait un album complet sur les 3 quantiques, du coup. Voilà.
Ah ouais, ouais,
c'est pour la petite info.
Pour le coup, on n'a pas du tout écouté ce qui s'est fait.
Vous êtes parti de zéro dans votre
ça, oui, ça fait longtemps que l'idée trotte dans ma tête. Et quand il a été question de faire le deuxième album, c'est là où on s'est dit pourquoi on ne ferait pas Inferno. Voilà.
Donc direct tout de suite la grosse montagne sur laquelle s'attaquer. Et du coup, donc c'est Mathieu qui a écrit les textes, et c'est ça la différence avec votre album précédent, c'est qu'avant c'est toi Vincent, je sais pas si je regarde le bon, c'est toi Vincent qui du coup faisait texte et musique. Là tu fais que la musique et c'est Mathieu cette fois qui fait les textes.
Ah, la seule petite précision, c'est que sur Transcendance, Mathieu avait fait
commencer, oui, effectivement.
Avait co-écrit un peu
effectivement, voilà. J'allais en parler après, c'est vrai. Mais du coup, donc Mathieu, tu es allé en profondeur dans l'œuvre de Dante. Dans quel sens? Est-ce que c'était déjà des textes sur lesquels tu étais connaisseur? Est-ce que du coup tu as poussé? Enfin voilà, comment ça s'est passé le travail d'étude? Puisqu'en fait, j'imagine qu'il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi sur quelque chose qui existe.
Exactement, oui, il y a une certaine responsabilité, surtout en particulier la gravité du sujet, c'est extrêmement important, étant donné qu'on parle des vices et des vertus. Et
donc, du coup, tu as appris l'italien médiéval pour.
Non, j'ai fait confiance à la traduction. Mais non, j'ai découvert l'œuvre de Dante pour l'album. J'ai étudié donc comment Dante représentait ses vices, pourquoi il représentait ses peines ainsi, parce que dans Dante on a ce qu'on appelle le contrapasso, c'est-à-dire que les damnés subissent une peine qui est en connexion avec l'acte qu'ils ont commis. Soit ils subissent l'inverse de ce qu'ils ont fait, soit ils subissent quelque chose d'analogue. Je me suis demandé du coup pourquoi ces gens-là subissaient ces peines-là. Qu'est-ce qu'a voulu représenter Dante? Qu'est-ce que ce péché, qu'est-ce que cet acte représentait pour lui? Et les conséquences, etc. Ensuite, je suis allé étudier des auteurs qui avaient étudié ces sujets-là, donc notamment saint Thomas d'Aquin, saint Augustin. J'ai été aussi lire des revues psychologiques sur les comportements criminels ou ce genre de choses, pour essayer d'en comprendre plus, parce que le but était d'explorer ces péchés, ces actes, ces vices, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau psychologique et philosophique. Et donc voilà, c'est tout le travail qui a été fait.
C'était un sacré, sacré travail, j'imagine. Pendant ce temps-là, tes comparses s'amusaient à faire de la musique et toi, tu étais en train de bûcher la Divine Comédie de Dante et puis tous les autres trucs que tu as racontés. En tout cas, il faut quand même préciser que c'est pas nécessaire de connaître la Divine Comédie pour écouter votre album.
Hein. Non,
c'est bête, mais bon, faut quand même le préciser. Et donc, on a écouté le morceau Violence tout à l'heure. De quoi parle ce morceau dans la Divine Comédie et puis comment vous l'avez composé? Est-ce qu'il y a des anecdotes dessus ou pas?
Alors en gros, dans le cercle de violence, on a plusieurs sous-cercles qui sont en fonction en fait des cibles de la violence. C'est-à-dire qu'on a la violence contre soi, donc on a la forêt des suicidés, on a la violence par exemple contre Dieu, donc dans la violence contre Dieu, Dante, si je me souviens bien, il met la violence contre la nature par exemple.
Il y a aussi la violence contre soi-même, la violence contre les autres, enfin voilà, contre c'est très autres, très exactement. Large. Je me suis un peu renseigné quand même.
Ils subissent chacun des peines différentes en fonction du type de violence qu'ils ont commis. C'est justement ce qu'on aborde dans le morceau violence, c'est-à-dire que donc j'ai regroupé la violence avec 3 cibles, 3 victimes. Donc on a la violence contre Dieu, contre le sacré, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, parce que même si on n'est pas croyant, on a forcément quelque chose de sacré, quelque chose qui pour nous est sacré. On a la violence donc contre soi-même, donc ça peut être le suicide qui est la chose la plus grave en termes de violence contre soi, mais on a aussi par exemple la scarification. On peut avoir la prise de drogue qui est une destruction de soi beaucoup plus lente. Bien sûr, là on parle pas d'une prise récréative de temps en temps ponctuelle. Là on parle vraiment
d'addiction.
D'une addiction. On a donc la violence contre les autres, donc là le meurtre serait le plus grave, et donc la violence contre Dieu, c'est le blasphème et le sacrilège. On explore les causes quelles sont les causes de la violence. Donc on sait que c'est inhérent à l'homme, c'est ce dont on parle, c'est une chose qui ne s'éteindra jamais, c'est inhérent à l'homme. Pour un croyant, il y a aussi l'influence du diable. Quelles sont les conséquences de la violence sur notre vie? Donc ça, on l'aborde un peu dans certains passages du texte.
Ça dans un morceau de moins de 5 minutes, hein, c'est quand même balèze. Hein.
Voilà, ça a été justement voilà, toute la complexité d'Inferno, c'est qu'il a fallu faire des choix. Il a fallu aussi synthétiser, résumer le mieux possible, tout en gardant une certaine clarté, une certaine précision. Ce sont des concepts tellement profonds et complexes qu'il ne faut pas. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas mettre de côté, parce que sinon ça change toute la perspective et ça peut nous mener à l'erreur. Ce qui, selon moi, peut être très dangereux.
En plus, tu dois le faire sous la contrainte de la composition musicale, puisque la façon dont il va disposer les lyrics, il faut que ça puisse fit avec la rythmique et avec la mélodie qu'on va faire.
D'ailleurs, ça s'est passé comment vous avez travaillé, puisque du coup, toi, tu devais apprendre voilà, toute l'œuvre de Dante, entre guillemets, pour ressortir quelque chose dans tes textes. Vous faisiez la musique, comment ça s'est passé au niveau de l'assemblage, justement? Est-ce que c'était en même temps? Est-ce que c'était après? Est-ce que, voilà.
Moi, j'ai composé la musique tout en amont. En fait, toute la musique était composée en amont.
Vous saviez déjà quel morceau allait aborder quel thème, ou c'était on verra bien.
Globalement, oui.
Ouais.
Après, il y a eu, à la différence de Transcendance, la voix, le placement de la voix et même l'écriture de la voix a été faite sur le moment, pendant l'enregistrement. Enfin, pour beaucoup de parties, il y avait des parties qui étaient déjà prévues où j'avais déjà des idées de la mélodie, de comment on allait placer la voix, mais au niveau de la, au niveau vraiment comment dire, de la réalisation,
ouais.
Ça a été fait sur le moment parce que justement il fallait faire des ajustements, pour que ça puisse fit avec le morceau, mais en même temps que ça puisse garder le sens de ce que lui il avait écrit.
Donc, en particulier sur la structure du texte.
C'était vraiment ça le challenge. Pour nous, le challenge ça a été surtout réussir à condenser, enfin pour lui c'est ça, c'était condenser et faire en sorte que ça aille sur le morceau avec le temps imparti du morceau, quoi.
Donc une petite part aussi d'improvisation de dernière minute, en tout cas en studio, de petits ajustements. Et bien justement, on va écouter un autre extrait de votre album Inferno et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On écoute Wrath, la colère, l'un des sept péchés capitaux, tout de suite. Terrafosa, Wrath.
Thank you.
Terra Fosa avec le morceau Wrath, l'un des quatre péchés capitaux qui sont abordés sur votre album Inferno. Alors pourquoi dans l'enfer il n'y a que quatre péchés capitaux, donc l'avarice, la gourmandise, la colère et la luxure, et donc ces quatre qu'on retrouve sur cet album, pourquoi il n'y a pas les sept?
Parce qu'en gros un péché capital n'est pas un péché, en fait c'est une disposition, c'est quelque chose qui peut nous amener à pécher. En gros capital c'est en latin la tête, donc c'est à la tête de tous les péchés.
J'apprends plein de choses aujourd'hui.
Donc c'est pour ça justement que Dante fait la distinction entre l'enfer et le purgatoire, et que dans le purgatoire, on a les sept péchés capitaux.
D'accord, ok.
Abordés. Okay. Mais dans l'enfer, ce ne sont uniquement que les actes. C'est pour ça que, par exemple, qu'on a le cercle de trahison. Trahison est un acte. Mais ce n'est pas une disposition, même si on peut avoir une certaine disposition à trahir.
C'est assez complexe, effectivement. Nous, on résume ça, les sept péchés capitaux, voilà, c'est réglé, mais Dante, il est allé, enfin, moi je dis Dante, il est allé beaucoup plus loin. Alors, on l'a dit, le changement par rapport à votre précédent album, Transcendence, c'est donc Mathieu qui a écrit les textes. Tu les as abordés sous quelle forme? Est-ce que c'est totalement du fictif? Est-ce qu'il y a une part personnelle que tu mets dans tes textes? Est-ce que c'est que de l'observation humaine? Voilà, comment tu les as un petit peu abordés? Est-ce qu'il y a un peu de tout ça? Est-ce qu'on suit un personnage? Enfin, voilà.
Alors, non, ouais, il n'y a pas de fictif. Il y a quelque chose de très scolaire, en fait, je pense, dans mon écriture. Et oui, ça, c'est de l'observation humaine, et il y a une part de moi dans le sens où j'ai été mon premier sujet pour explorer ces vices-là. Parce que toutes ces choses, comme nous tous, j'ai été touché. J'ai déjà ressenti la colère, j'ai déjà fait preuve de colère, j'ai déjà pu être violent, être gourmand.
Qui voilà. N'a pas été à un certain degré.
Exactement, voilà. Et donc... l'écriture de ces textes, au-delà d'une certaine recherche, a nécessité aussi une certaine introspection.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Parce que je crois que c'est nécessaire pour être pertinent, pour être efficace.
Alors Mathieu, tu disais justement dans une interview que tu as commencé à prendre part à l'écriture des chansons sur votre album précédent parce que, je cite, il y avait certaines choses qui étaient dites dans certaines paroles de Vincent ici présent avec lesquelles je n'étais pas en accord et je ne voulais pas représenter ça. Alors c'est-à-dire, déjà est-ce que Vincent t'a pas été vexé? Et surtout voilà, c'est-à-dire.
En gros, moi et Vincent, on a beaucoup de choses sur lesquelles on s'entend, mais on a des divergences philosophiques, même spirituelles.
Oui, alors justement, j'avais noté, Mathieu, tu es catholique, Vincent, tu es athée et plutôt anti-religion, et toi, Martin, plutôt athée, mais pas vraiment anti-religion. C'est ça, j'ai bon
exactement.
À peu près.
Ouais. Exactement.
Et donc, ça, on a un système de pensée qui fait qu'il y a certaines choses avec que moi, je ne voudrais pas faire, ou qui, selon moi, sont bonnes, et qui, pour Vincent, justement, c'est tout l'inverse. Donc, on a pris un accord dans Terra Fosa, justement à partir de Transcendance, parce que c'est là où j'ai commencé à prendre conscience... de ce genre de choses. Avant, j'étais pas aussi impliqué dans le groupe. Et on a pris l'accord de ne parler que de ce dont on est d'accord, que du socle commun.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, maintenant que c'est toi, enfin en tout cas sur cet album, que c'est toi qui écris les textes, peut-être que le problème inverse se représente pour Vincent, qui doit désormais chanter les textes d'un autre, entre guillemets.
C'est exactement ce qui se passe, dans le sens où... Alors attention, c'est pas dramatique. c'est vrai que... moi, comme il l'expliquait, on est vraiment très proche sur beaucoup beaucoup de choses. Là, on pense quasiment pareil sur quasiment tout. Le gros point de divergence, c'est la religion. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que du coup, moi, je vais pas avoir forcément la même vision que lui sur certaines choses. Et ce que moi j'écrivais auparavant n'avait pas du tout les mêmes comment dire, c'est un peu plus négatif, on va dire, voilà.
J'allais vous demander, c'est quoi un peu les différences entre vous au niveau écriture? Il y en a un qui est côté sombre et l'autre lumineux, c'est ça?
Non, en gros, ça peut être ça.
Ouais.
Voilà. Moi, je suis plus un misanthrope et j'ai peu foi en l'humanité, alors que Mathieu aurait plus tendance à voir le côté positif, à chercher le fait qu'il y a du bon, qu'il y a matière à vraiment à trouver de la lumière.
Vous êtes le yin et le yang, du coup, vous deux, en quelque sorte.
C'est un peu ça. Et du coup... donc quand il a écrit les paroles pour Inferno, c'est vrai que des fois il venait avec des textes qui étaient pour moi un peu trop
blancs, trop lumineux.
Trop lumineux. Et du coup il fallait trouver un juste milieu. Donc ça n'a pas été facile non plus pour lui parce qu'il a fallu qu'il réécrive certaines parties pour que ça me convienne. Parce que comme je dois les chanter, il faut que je puisse un minimum m'identifier aussi avec. C'est ça
qui te surveille là, je suis en train de voir là.
c'est pas évident en vrai. C'est une nouvelle contrainte qui n'était pas à laquelle j'étais pas habitué. Bon, finalement, je trouve qu'on s'est plutôt bien sorti. Et ça me va. On a, comme il disait, on a un socle commun, donc voilà.
En tout cas, ça colle bien avec le fait que dans Terrafosa, vous abordez pas mal la dualité de l'homme. Donc voilà, c'est bien, vous avez deux faces déjà à vous deux. Et toi, alors Martin, dans tout ça, toi du coup, batteur, alors voilà, comment ça se passe avec les deux frères qui sont du coup le jour et la nuit, entre guillemets
Alors moi, je suis surtout très spectateur de toutes ces discussions tardives, la nuit. Mais ouais, bah c'est, moi après, j'apprends aussi beaucoup de choses avec Mathieu de tout ce qu'il dit, parce que je suis pas énormément renseigné comme toi d'ailleurs. Du coup, je suis beaucoup spectateur de tout ça, alors je donne mon avis, mais en général, je suis souvent au milieu.
Oui,
il y a deux extrêmes, du coup, moi, je me retrouve souvent au milieu dans les discussions, et du coup, c'est...
C'est l'arbitre.
C'est
voilà,
l'arbitre.
Exactement, ouais.
Alors, on va revenir un petit peu à la musique, mais d'abord, juste un changement aussi par rapport à votre précédent album, c'est le morceau Limbo, évidemment, qui est chanté intégralement en français par toi, Mathieu. D'ailleurs, Vincent, tu disais dans une interview que le chant n'est pas quelque chose qui t'a plu. Tu avais choisi un peu le chant par défaut parce qu'il fallait un chanteur, mais que tu préférais la guitare. Alors, c'est assez surprenant d'entendre ça. Et toi, Mathieu, tu peux chanter en français, mais tu dis que ton problème, c'est ton accent anglais. Alors, est-ce qu'à l'avenir, vous pourriez chercher un autre chanteur pour chanter en anglais, du coup, ou alors passer en chant français?
Alors ça, je vais répondre tout de suite. Normalement, il n'y aura jamais personne d'autre dans Terrafosa. C'est-à-dire qu'on
c'est
restera...
enregistré, c'est noté et ce sera répété dans quelques années.
Non, parce que je suis très... S'il y a bien une chose dont je suis fier avec ce groupe-là, c'est qu'on est ensemble depuis 2007 et qu'on a tout fait ensemble. Tout de A à Z. Et qu'on a tout traversé ensemble. Aussi bien les choses négatives, et il y en a eu, que les choses positives. Donc ça, c'est pour moi la plus grande fierté de notre parcours, c'est ça, c'est qu'on soit juste tous les trois les mêmes que quand on avait 17 ans et 13 ans, quoi. Ça, c'est le premier truc. Après, comme beaucoup d'autres groupes ou d'autres artistes, je sais que moi, à la base, j'ai appris l'instrument qui m'a intéressé, c'était la guitare. Qui m'a fait rêver, c'était la guitare. Mon père, il faisait de la guitare, mon oncle faisait de la guitare. Donc, c'était pour moi l'instrument qui m'a attiré quand j'étais petit. Et donc, j'ai voulu m'y mettre très rapidement. Donc, c'était pour moi mon instrument de choix, mon instrument de cœur. Quand on a lancé le groupe, tous les trois, en réalité, il n'y avait pas de chanteur. À la base, moi, j'aurais voulu faire juste la guitare et je voulais qu'il y ait un chanteur qui soit juste, juste le chanteur du groupe, quoi. Sauf qu'on a très vite un mois après la formation du groupe, on a fait notre premier concert. Et donc, on n'avait pas de chanteur.
Il fallait un chanteur. Ouais.
Un chanteur. Et donc, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais faire le chant pour le concert et puis après, on trouvera un chanteur.
On se dit souvent ça, hein, mais finalement...
Finalement, on est restés tous les trois et puis j'ai fait ça un peu par dépit, mais c'est vrai que c'est pas... Après, attention, hein, je ne hais pas chanter, il y a des choses que j'aime bien faire. En fait, j'ai remarqué que c'est surtout j'aime chanter certaines choses. Voilà, plus il y a de la colère, un peu de violence, plus j'aime chanter ces choses-là, ça me parle plus naturellement que d'autres thèmes, par exemple. Voilà. Mais après, pour le chant français, c'est en fait, il y a une explication pour laquelle Mathieu chante en français sur Limbo. Déjà, il avait chanté en français sur le premier album aussi, sur Attrition, c'est vrai. C'est Attrition, là, ouais. Et en fait, c'est bon, lui, il a écrit le texte en français. Ça fait partie de
une signature.
Ouais, c'est une petite signature de mettre toujours un morceau en français. C'est quelque chose qu'on aimerait faire sur chaque album, avoir un morceau au moins en français.
Un petit bonus, entre guillemets, voilà. Qui sort de l'ordinaire pour vous, on va dire.
Et on voulait, de toute façon, mettre un morceau en français sur Inferno, c'était juste qu'on ne savait pas... On hésitait avec un autre morceau à la base. On a essayé et finalement, on trouvait que ça collait pas trop. Et en fait, sur Limbo, avec le texte qu'avait écrit Mathieu, c'était le meilleur... c'est là où ça fitait le mieux. Et en plus, comme il tenait à chanter ce morceau en particulier, parce que ce thème-là était un thème qui lui parlait.
Et le morceau en lui-même me parlait énormément.
Donc c'était logique qu'il le fasse... La seule grosse différence, c'est qu'il l'a fait en full solo. Voilà, c'est vraiment que lui qui chante sur ce morceau-là, alors que d'habitude, je chante en lead et il va harmoniser. Là, il est tout seul sur ce morceau, c'est vraiment la grosse diff...
C'est vraiment un truc nouveau un petit peu pour vous. Et justement, musicalement, est-ce que vous avez testé des nouvelles choses sur cet album? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher un petit peu de différent par rapport à votre album précédent?
La grosse différence, c'est beaucoup plus d'harmonie de voix. Franchement, c'est le truc où on s'est vraiment amusé. D'ailleurs, en fait, on a commencé sur un morceau à le faire. Et on a trouvé ça tellement, tellement bien.
Que vous allez le faire sur...
En fait, ça a déclenché toute une série de... C'était un réflexe. Après, sur chaque morceau qu'on faisait... on cherchait à comment on va harmoniser les voix, comment on va pouvoir faire les trucs. Et en fait après on a pensé le truc vraiment comme des effets aussi quoi. Donc les voix vont changer de, il va y avoir des effets de voix. S'il y a des growls, c'est pour représenter telle chose. S'il y a des voix un peu démoniaques, c'est pour représenter telle chose. Il y a des chuchotements, il y a plein de couches.
C'est vu comme une sorte de pièce de théâtre entre guillemets avec des personnages, des choses comme ça quoi.
C'est un peu ça ouais. C'est un peu vu comme il y a un aspect un peu cinématographique dans la conception de cet album. C'est de raconter une histoire, raconter le voyage et de le faire en utilisant beaucoup de couches sonores différentes en fait. C'est là je pense qu'il y a eu beaucoup plus de travail par rapport à Transcendance, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de couches de sons, de petits effets.
Il est plus riche cet album, voilà. Transcendance, oui, on pourrait le résumer comme ça. D'ailleurs les morceaux sont un peu moins prog que sur votre premier album, alors je ne sais même pas si vous considérez déjà comme un groupe prog, mais en tout cas les morceaux sont plus courts, c'était une volonté artistique de votre part, d'aller peut-être plus à l'essentiel, je ne sais pas.
Alors je dirais pas que c'était une volonté de faire plus court. Par contre, c'est vrai qu'on s'est jamais considéré comme un groupe de prog.
Après, c'est l'étiquette qu'on vous donne, mais c'est vrai qu'on sait pas trop où vous classer, faut dire.
Mais je pense que c'est parce que chaque morceau est très différent les uns des autres. Donc en fait, ça doit sûrement être la chose qui fait que les gens ont du mal à identifier clairement le genre dans lequel on se situe.
Moi je suis désolé, je mettrais groupe de metal prog parce que je sais pas comment
vous
classer.
Mais c'est pas grave, en fait, en vrai, c'est pas très important au final.
Ouais, effectivement, de toute façon voilà, c'est pour donner une étiquette, mais les gens bon, ils se doutent bien que voilà, après ils écoutent et puis ils font leur propre avis. En tout cas vous avez aussi souhaité faire un peu moins de growl sur le chant. Ça m'a fait penser à une évolution à la Opeth. Je sais pas si c'est une influence qui vous parle. Non, pas du tout.
Je connais,
oui,
mais c'est pas du tout une influence du groupe.
Pas du tout une influence du groupe, c'est pas grave, cette question de côté. En tout cas, est-ce que cet album là Inferno, on pourrait dire que c'est un album de transition pour vous, entre un ancien Terrafosa, un nouveau Terrafosa à partir de maintenant?
Moi je dirais que c'est un approfondissement de Terrafosa.
C'est une suite logique du coup. Ouais.
Voilà, c'est un approfondissement surtout au niveau de la philosophie du groupe, parce que Mathieu est allé beaucoup plus profondément en détail. Parce qu'en fait c'est vraiment connecté à la transcendance en fait, Inferno, hein, tout ce dont on parle en fait, c'est connecté justement au dépassement de soi au final.
C'est la confirmation du thème philosophique du groupe, oui.
Voilà, donc en fait c'est plutôt une suite logique et pas une, je dirais pas que c'est un nouveau Terrafosa, je dirais juste que c'est la suite.
C'est la suite, mais en tout cas c'est peut-être vers là, vers lequel vous voulez vous diriger. On va écouter un dernier morceau et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview, suivie des questions flash, un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Rowe Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite le morceau Heresy de Terrafosa. C'était Terrafosa avec le morceau Heresy. Vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview de Terrafosa. Même question que tout à l'heure, il parle de quoi ce morceau Heresy dans l'histoire de la Divine Comédie et est-ce que niveau composition, voilà, il y a des anecdotes ou quoi ?
Alors, dans l'œuvre de Dante, ça concerne voilà, les hérésies chrétiennes. Nous, on a décidé de l'aborder différemment justement parce qu'on a un croyant et un non-croyant dans le groupe. Donc l'hérésie, pour un non-croyant, ça ne parle pas. Seulement, il y a une autre définition aujourd'hui de l'hérésie, c'est aller contre un dogme. C'est le même principe en fait que l'hérésie d'un point de vue religieux, mais là, ça pourrait être un dogme scientifique, par exemple, ou autre chose.
À partir du moment où il y a voilà, un dogme.
Une vérité qui est admise.
Ouais, effectivement.
Et donc, on a décidé, nous, de l'aborder, de faire une sorte d'allégorie, en fait, avec hérésie, où c'est la vérité et l'erreur, avec un grand V et un grand E. Et en fait, les conséquences de l'erreur, les causes de l'erreur intellectuelle ou spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que parfois on peut se tromper ? Est-ce que ça peut être par orgueil, par paresse, par manque de travail, par malice aussi ? Par exemple, on a beaucoup l'exemple aux États-Unis avec ces sectes, etc., qui vont manipuler les gens et qui vont leur faire croire qu'ils leur font découvrir une vérité, alors qu'en fait tout est faux, c'est un mensonge, et c'est dans le but de leur soutirer quelque chose. Et donc en fait c'est sur l'importance de la vérité, l'importance du travail, l'importance d'être humble dans son intelligence et de toujours être sûr de ce dont on parle. Donc de vérifier ce dont on parle, de parler de choses dont on a épuisé toutes les sources.
Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture effectivement, c'est pas juste pas une adaptation mais une inspiration de Dante. Voilà, il y a quand même quelque chose de très actuel, plusieurs niveaux de lecture. Là tu parlais de vérifier ses sources, entre guillemets c'est le travail des journalistes aussi, enfin voilà, c'est quand même quelque chose de très actuel. Et musicalement, est-ce qu'il y a des anecdotes sur ce morceau ou pas ?
Alors musicalement en fait moi ce qui est difficile avec la musique c'est que c'est un peu subjectif, surtout enfin au niveau de la composition c'est
sûr.
Vraiment voilà, c'est un morceau qui commence avec des arpèges et qui est très inspiré pour le coup de. Bon, enfin, c'est le cas de tous les morceaux de Terrafosa, mais celui-là, il est vraiment imprégné d'une dimension un petit peu religieuse, un petit peu spirituelle. Et c'était voulu pour Hérésie de faire d'avoir ce thème-là, quelque chose de très. Qui inspire tout de suite un peu une ambiance de cathédrale. Et qui sont
un peu massif.
Voilà, c'est ça, et puis qui est repris après à la guitare avec les mêmes arpèges. Après, on a fait un mélange justement au niveau de la voix. Il y a ces effets un peu démoniaques qui arrivent par moment, voilà, qui représentent l'inversion de la voix clean qu'on a par moment. C'est un peu, voilà, c'est surtout ça les anecdotes au niveau de la musique, quoi.
Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal de recherches. Transcendence est sorti en 2020, celui-ci en 2024. Combien de temps vous avez travaillé sur Inferno en général ? C'est une question qu'on pose au début, mais je sais pas, je me suis dit que j'allais poser là.
Minimum 6 mois, je dirais même entre 6 mois et 1 an.
Ok, oui, donc ça a vraiment été mûri, réfléchi, recherché, etc.
Après, c'est au niveau de c'est compliqué de le quantifier au niveau de la musique, parce que moi, comme je compose en permanence...
Oui, en fait, tu reprends des idées que tu avais déjà composées, ouais, voilà. Tu réarranges, tu ajoutes, etc. Oui,
par exemple, pour l'anecdote, le dernier morceau de l'album Treachery, le riff principal, il a été composé il y a plusieurs années.
Oui, d'accord.
Avant,
oui.
Mais je savais que ce morceau-là, ça serait pour le projet Inferno.
Ok, d'accord.
C'était sûr et certain.
Okay.
C'est juste que je ne savais pas encore que ça serait le dernier morceau, que ça serait Treachery. Au final, le premier morceau que j'ai composé pour Inferno, il y a des années, se retrouve être le dernier morceau de l'album. Voilà.
Et puis bah, j'imagine que pour l'album suivant, il y aura aussi des morceaux qui ont été composés il y a 10 ans ou je ne sais quoi, ça peut arriver. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des morceaux qui vous ont challengé en termes de musique, en termes de chant, en termes de paroles, peu importe ? Est-ce qu'il y a des morceaux vraiment qui étaient difficiles à faire, des petits défis
Raph, à la basse. Et pas simple, je trouve.
En réalité, ils ont tous un truc de. Ils peuvent tous avoir un côté challenge. Et surtout, ça va être le fait de. Ouais, de. Comment dire ? Il y a des transitions qui sont pas forcément évidentes. Parce que la différence qu'on a avec cet album-là aussi par rapport à Transcendance, c'est que Transcendance, on avait. Donc les morceaux ont été composés, et ensuite on les a joués. Et donc on arrive en studio, on a record, mais on savait jouer nos morceaux. Là, la différence d'Inferno, c'est que ça a été composé en amont et ça a été record juste après. Donc en fait, on n'a pas vraiment joué les morceaux tous ensemble avant de les enregistrer. Donc on a découvert en vrai un petit peu
comment ça sonnait en live et comment
ça. Ouais. Après. Donc c'était un petit peu ça le challenge, c'était voir comment ça allait se passer quoi. Mais finalement, ça, globalement, ça va.
Et bien, puisqu'on parle du live, voilà, transition est toute trouvée. Niveau concert, j'ai rien vu pour vous à venir. Est-ce que vous avez des concerts qui vont arriver cette année? Parce que j'imagine que vous avez à cœur de défendre cet album. Voilà, vous avez quoi de prévu en 2024?
Alors là, tout de suite, il y a une date de programmée au Midsummer Prog Festival qui sera aux Pays-Bas.
Je n'ai pas vu passer.
Elle est arrivée aujourd'hui.
Ok. Alors, sachant que du coup, le podcast est enregistré dans la semaine, mais il est diffusé vendredi. Donc, c'était vraiment. Voilà.
Voilà, bah, du coup, ça, c'est vraiment très récent comme annonce. Mais là, pour l'instant, c'est la seule date qu'on a de confirmer. Après, on espère qu'on en aura d'autres au cours de l'année.
Cast en cours.
Voilà, ouais. On a notre booker qui bosse dessus.
Alors, du coup, c'est quoi la suite pour Terrafosa? Est-ce que vous avez déjà des idées? Voilà, peut-être explorer les autres cantiques de la Divine Comédie, le Purgatoire et le Paradis. Explorer voilà, les péchés capitaux, je ne sais pas. Ou changer radicalement de thème et d'univers? Est-ce que vous avez déjà des petites idées? Parce que là, vous vous êtes attaqué à un gros projet que vous vouliez faire depuis des années. Mais est-ce que vous avez envie de le compléter ou est-ce que vous avez envie de passer à autre chose?
Bah, à titre personnel, alors c'est en cours de discussion en réalité.
Oui, bah, Léa, c'est tout frais, ça vient de sortir. Hein, c'était il y a un mois, donc forcément, mais bon.
On est en train de voir, mais à titre personnel, j'aimerais compléter justement Inferno, parce que pour moi, Inferno n'est pas complet. Déjà, il y aurait justement les trois péchés capitaux restants à aborder. Il y aurait aussi les vertus à aborder, qui seraient la finalité de la transcendance, dans un sens. Enfin, là, c'est pas la finalité, c'est pas la fin en soi, mais voilà qui est la dernière étape vers la transcendance. Et puis d'autres sujets qui sont connexes à la transcendance et pourtant tout aussi importants. Donc à titre personnel, je pense que sur ce concept philosophique-là, et donc sur les possibles suites d'Inferno, il y aurait beaucoup de choses à faire encore.
Et toi?
Je suis assez d'accord. Mais après, je ne sais pas ce qu'on fera à l'avenir. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on fera forcément quelque chose qui est en lien avec notre fil conducteur, qui est la transcendance.
Voilà. Ouais, vous n'êtes même pas obligé de les faire dans l'ordre. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez sortir un album qui n'a rien à voir, puis après revenir sur votre partie 2 si vous voulez le faire. Voilà, c'est totalement possible. Et ben, c'est presque la fin de cette interview. Avant de se quitter, on va passer aux questions flash, une petite série de questions-réponses rapides que vous pouvez retrouver en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok et le blog de The Pit Edition. C'est parti pour les questions flash. Première question, vous chantez quoi sous la douche?
Alors moi je chante rien du tout sous la douche.
Moi je chante Limbe.
Moi je chante pas vraiment non plus.
Quel est l'album qui vous a le plus marqué?
Ah, ça c'est très très dur. Je pense que c'est Meshuggah. Meshuggah Obzen.
Moi personnellement je pense pas vraiment en termes d'album. Donc, c'est plutôt des morceaux qui m'ont marqué. Donc, je dirais c'est Salve Regina du Chant des Templiers.
Là comme ça, j'ai pas vraiment d'idée non.
Quel est votre meilleur souvenir de concert? Ça peut être un concert que vous avez fait ou que vous avez vu en tant que public.
Je pense que... Alors personnellement, ça serait le concert de... Les deux concerts de Ghost que j'ai vus. À chaque fois, c'était juste merveilleux.
Personnellement, j'en ai pas.
Et moi, c'était Ghost aussi, pour le coup.
À l'inverse, c'est quoi votre pire souvenir de concert?
Quand je me suis rendu compte que j'avais mis le stand-by sur mon ampli basse et que je ne comprenais pas pourquoi il marchait pas.
Moi, ça a été quand j'ai fait un concert et que j'entendais rien dans mes in-ears. C'était un peu voilà, compliqué.
Et moi, m'occupant des backing tracks, il y a eu un problème dans les backing tracks où ça n'avait pas lancé la bonne chanson. J'ai dû courir auprès du matériel pour pouvoir arrêter, redémarrer. Enfin, c'était un petit stress, une petite dose de stress instantané, mais c'était marrant.
J'espère que c'était pas au même concert tout ça quand même pour vous. Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux?
Définitivement côté sombre.
Lumineux.
Gris.
Un mot pour décrire Terrafosa?
Spirituel.
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 Avec quel groupe vous aimeriez tourner?
Moi, ce serait Ghost.
J'ai en réalité pas vraiment de préférence.
Avec Terrafosa pour commencer.
Bien vu. Vous êtes plutôt chant en français ou en anglais?
Chant en anglais.
En français.
Anglais.
Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel?
Lire les pensées des gens.
Me comprendre.
Contrôler le temps.
Si vous étiez un péché capital, vous seriez lequel?
Je peux pas répondre, c'est trop compliqué.
La paresse probablement.
C'est tous.
À quoi êtes-vous accro?
La guitare.
À moi?
C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses.
S'il vous restait une journée à vivre, vous feriez quoi?
J'essaierai d'être le plus vertueux possible.
Je resterai avec ma famille, je pense, puis j'attendrai juste que ça arrive.
Et moi, je retournerai vers ma famille aussi.
Est-ce qu'il y a une reprise que vous aimeriez jouer ?
Moi, il y en a pas mal que j'aimerais bien faire. Il y a certains morceaux de Lana Del Rey que j'aimerais bien refaire. Après, il y a aussi un groupe qu'adorait mon père qui s'appelle Creedence.
Creedence Clearwater Revival.
Voilà. Qui me plaît aussi particulièrement. Il y en a pas mal.
J'ai pas spécialement une envie de reprise, moi.
C'est pareil.
Quel est votre morceau préféré de votre deuxième album, Inferno ?
Treachery.
J'aime bien Treachery aussi, oui.
J'aime bien Green, moi.
Et enfin, pourquoi faut-il écouter votre deuxième album, Inferno ?
Parce que c'est incroyable, tout simplement.
Parce que c'est incroyable.
Et un immanquable.
Et bien merci beaucoup à vous Terrafosa, je rappelle donc que votre deuxième album Inferno est sorti en février dernier et donc des dates de tournée on espère pour cette année, merci beaucoup à vous.
Merci.
Avant de passer à l'agenda concert Gérard Drouot Productions, un mot sur la plateforme The Pit qui a sorti hier le documentaire Dream Deceivers. L'histoire commence dans le Nevada juste avant Noël en 1985, le jeune James Vance, 18 ans, regarde son meilleur ami se tirer une balle dans la tête, il meurt sur le coup. James tente également de se suicider à son tour, il survit mais en étant très sévèrement défiguré. Plus tard, James Vance affirmera que leur acte avait été influencé par le groupe de heavy metal britannique Judas Priest, poussant les deux familles à attaquer le groupe en justice pour avoir, je cite, « hypnotisé leurs enfants à l'aide de messages subliminaux contenus dans leurs chansons et donc appelant au suicide ». Le procès sans précédent qui se tiendra en juillet 1990 est le cadre du documentaire Dream Deceivers. C'était en fait le procès du heavy metal au sens large, accusé de corrompre la jeunesse américaine. Dream Deceivers est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement, c'est 6€ par mois, 66,6€ par an. Il y a 7 jours d'essai offert et c'est sans engagement. Rendez-vous sur the-pit.com pour voir ce documentaire et plein d'autres. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
Besoin d'un coup de main pour choisir un concert ? Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
Le tribute band Queen Extravaganza fait une grosse tournée des Zéniths en France du 24 mars au 9 avril. C'est le seul et unique groupe validé et produit par les membres originels de Queen, Roger Taylor et Brian May. Ça commence le 24 mars à Rouen, puis le 25 à Amiens, le 26 au Zénith de Paris, le 28 à Nancy, le 29 à Dijon, le 30 à Saint-Étienne, le 31 mars à Toulon, le 2 avril au Palais Nicaïa à Nice, le 4 au Summum à Grenoble, le 5 à Narbonne, le 6 à Pau, le 7 à Bordeaux et le 9 à Rennes. Vous avez tout le détail sur gdp.fr. Il reste encore quelques places pour le supergroupe de hard rock Mr. Big pour leur concert du mardi 26 mars au Bataclan à Paris. C'est un groupe formé dans les années 90 par Eric Martin au chant, Paul Gilbert à la guitare et Billy Sheehan à la basse. Et la billetterie est ouverte pour le concert de Megadeth au Zénith de Paris le mercredi 19 juin. Le Hellfest Corner maintenant, vendredi 8 et samedi 9 mars, les salons Redlocks Tattoo et Oniric Tattoo seront de passage au Hellfest Corner pour vous tatouer avec plein de flashs que vous retrouvez sur le Facebook du Hellfest Corner. Et enfin, le brunch du chef Jean Driège a été déplacé au dimanche 17 mars. Il y a plusieurs formules de 20 à 42€ sur réservation sur le site du Hellfest Corner par MP ou directement auprès de l'équipe du bar. C'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez tous les podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, the-pit.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous retrouve vendredi prochain justement avec l'interview de Bad Situation, un duo de heavy rock créé par le youtubeur Dealer de Metal. Leur premier album éponyme Bad Situation sortira le 29 mars. Ils ont quelques concerts en France à venir, dont La Boule Noire à Paris le 30 mars et surtout l'ouverture de la main stage 2 du Hellfest dimanche 30 juin. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePit.com.